a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
et auditeurs de Livres et Amis sur Radio Galère pour cette émission du 17 janvier 2024. Donc nous sommes en 2024, ça fait un petit moment que ça dure, on vous a présenté nos vœux la semaine dernière, enfin s'il y en a qu'on n'a pas entendu, ben voilà, on réédite, ça fait jamais de mal. On souhaitait donc une année pas trop mauvaise et on souhaitait surtout une année de découverte, de plaisir, de lecture, de plaisir littéraire, mais pas toujours, puisque la lecture n'est pas toujours littéraire. Enfin bon, ça c'est un peu, c'est comme la musique grande ou petite, n'est-ce pas? C'est une question de classification. Donc aujourd'hui, nous avons de la lecture qui n'est pas littéraire. Nous avons des écrits de témoignages, des écrits du quotidien. Et je vais vous raconter un petit peu comment j'ai découvert ces écrits. Nous avons en main un livre de Geneviève Bueno qui s'appelle « Femmes d'Argenteuil dans leur intérieur ». Alors, quand vous aurez la référence sur le podcast, vous verrez que si vous allez chercher « Femmes d'Argenteuil dans leur intérieur », vous allez trouver en effet un livre édité par Tangerine Nights. C'est tout ce qu'il y a de français, mais enfin, il s'appelle comme ça, Tangerine Nights, c'est joli. Vous allez trouver donc un livre dont la couverture reprend « Femmes d'Alger dans leur intérieur » de Eugène Delacroix. Et Eugène Delacroix, au XIXe siècle, sacrifiait à la mode de l'orientalisme. Il a beaucoup voyagé, en effet, au Maghreb. Il a fait beaucoup de tableaux d'Algérie, de paysages. Il a même peint des lions. Et moi, ça me faisait toujours rire, les lions de Delacroix. Quand je les voyais au musée du Louvre, je leur trouvais une drôle de tête aux lions de Delacroix. Mais enfin, ça fait rien. Et par contre, Femmes d'Alger dans leur intérieur, ben c'est pareil. C'était un des tableaux du musée du Louvre que je trouvais assez extraordinaire parce que Delacroix, il l'avait peint, lui, tranquille, dans son atelier à Paris, mais avec des croquis qu'il avait relevés là-bas à Alger. Et il avait mis dans ses tableaux toute sa sensibilité d'orientaliste, ou du moins toute la sensibilité de peintre à la mode qui faisait à Paris de l'orientalisme pour plaire à ses contemporains. Et la couverture de Femmes d'Argenteuil dans leur intérieur, je la trouve splendide, parce qu'elle reprend dans la partie droite les femmes, effectivement, d'Alger dans leur intérieur. Et dans la partie gauche, l'illustratrice, qui est Marie-Odile Ingelaroel, l'illustratrice ajoute Argenteuil. Un Argenteuil presque impressionniste avec un clocher, un moulin, un aqueduc, la Seine qui coule, etc. Donc les femmes d'Argenteuil dans leur intérieur, ce sont bien des femmes orientales avec tout leur orientalisme. Mais par la fenêtre, la Seine qu'on découvre, c'est justement une Seine d'Île-de-France avec la vie que les femmes d'Alger ont pu découvrir en Île-de-France. Parce que le thème du livre, c'est ça. Les femmes d'Argenteuil dans leur intérieur, ce sont en fait les femmes immigrées du Maghreb à Argenteuil qui très souvent vivent effectivement et prioritairement dans leur intérieur. Alors, c'est intéressant, vous savez, on avait depuis quelques semaines, on avait suivi cette espèce de fil directeur de femmes africaines ou d'histoires de femmes racontées par des écrivaines africaines. Et là, on pourrait dire que c'est le contraire. C'est une écrivaine française qui décide de rencontrer des femmes d'Argenteuil, tout simplement parce qu'elle, Geneviève Bouhonneau, elle habite Argenteuil. Elle décide de les rencontrer et elle nous fait vivre, elle nous fait découvrir la vie de femmes du Maghreb installées à Argenteuil. Donc j'ai trouvé que cette démarche était particulièrement intéressante. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de la littérature, non, c'est plutôt des témoignages. C'est plutôt du, je ne sais pas comment vous dire, de la langue de tous les jours. Et j'ai trouvé que c'était plein d'une fraîcheur et en même temps d'un intérêt pour la société de ces femmes en France dans la deuxième partie du XXe siècle et le début du XXIe. D'un intérêt pour ces femmes, donc, qui est une vraie convivialité, une rencontre vraiment chaleureuse. Alors, ça commence par une interrogation qu'on peut se poser, en effet, quand on n'est pas trop vieux, et même quand on l'est un peu plus. À quoi ressemblait la France d'avant mai 68? Ah oui, il n'y a bien sûr pas une seule réponse. À quoi ressemblait la France d'avant mai 68? Les Français peuvent se poser la question, mais quand en plus on était maghrébin et qu'on débarquait d'Afrique du Nord, à 15, 17, 20 ans, à quoi ressemblait la France d'avant mai 68? Ça devait être une vraie question. Donc c'est une question que pose l'auteur, Geneviève Bouhonneau, et elle y répond par ses souvenirs à elle, et elle va, pour le restant du livre donc, y répondre par les souvenirs de ses invités, femmes du Maghreb installées à Argenteuil. Première partie donc de la réponse. Pour moi, auteur de ce livre, débarquer d'Afrique du Nord à 17 ans rimait avec d'innombrables découvertes. Donc c'est le premier élément de réponse, c'est que Geneviève Bouhonneau, finalement, elle est comme les femmes algériennes d'Argenteuil. Elle arrive d'Algérie. Elle arrive d'Algérie, d'une famille française. Et elle arrive dans un monde qui, évidemment, l'accueille d'une façon bien différente de ce qui serait si elle était algérienne. Elle nous dit « un monde chaleureux, à deux pas des bois de Cormeilles, à deux pas des berges de la Seine, magnifiées par tant de maîtres, Monet, Manet, Pissarro, Renoir, à Argenteuil, la nature n'était jamais lointaine. Et en plein cœur des Trente Glorieuses, la ville nouvelle était encore dans les limbes. C'était plutôt le village traditionnel d'Argenteuil qui était là. Il y avait bien de ça de là des grues, des engins de chantier, mais enfin l'immeuble dans lequel nous avons emménagé était cerné de terrains vagues où fleurissaient coquelicots et boutons d'or. Une aubaine pour les enfants que nous étions et qui pouvaient s'adonner à tous les jeux possibles sur d'immenses espaces. Donc Argenteuil, en 68, c'était la liberté. La liberté sauvage dans un territoire à l'égard du centre-ville. La dalle n'était pas encore là, ni la gare du Val d'Argenteuil, que l'on appellera à ses débuts la nouvelle gare. Mes parents, enseignants, furent nommés à l'école Paul-Éluard. Mais le lycée n'était, alors ce lycée d'Argenteuil donc, le lycée n'était que l'annexe du lycée d'Anguin. Et il y avait un lycée professionnel, mais quelques classes seulement. Pas encore le lycée professionnel Fernand Léger, devenu tel depuis. Ni piscine, ni patinoire. Alors que, réduit au bâtiment de briques rouges d'origine, l'hôpital occupait le site actuel, mais sur une bien plus petite surface. Il y avait aussi l'ancienne bibliothèque, un petit local qui n'avait rien à voir avec l'actuelle médiathèque du centre-ville, ni même avec la belle bibliothèque Robert Desnos de la Dalle. Presque toutes les opérations de la vie courante nécessitaient de se rendre à Argenteuil-Centre, où étaient concentrées les infrastructures municipales et les principaux commerces, des petits commerces encore. Et pour moi, de mon côté, quel bonheur de la gare, justement, d'aller découvrir Paris, cette ville lumière dont on m'avait tant parlé. les musées, les librairies, les cinémas du quartier latin, les Parisiens, les Parisiennes, la faculté des sciences. Je me lançais avec détermination dans des études de mathématiques, sans me douter que quelques années plus tard, finalement, j'exercerais moi aussi, professeur de mathématiques, au lycée Romain Rolland d'Argenteuil. Alors voilà, c'est le début. Geneviève Bouenneau donc, nous donne ses traces d'Argenteuil à la fin des années 60. Puis elle nous raconte la genèse du livre. Parce qu'elle a beau être professeure de mathématiques, en effet, elle s'est très vite intéressée à l'écriture et à l'écriture de ses contemporains et de ses contemporaines au sein d'ateliers d'écriture qu'elle fréquente régulièrement. Et au Salon du Livre d'Argenteuil, une année où précisément elle était venue présenter un atelier d'écriture qu'elle animait, elle a rencontré une jeune femme qui lui a présenté un manuscrit, des carnets d'adolescentes, des souvenirs, des notes de rencontres, etc. Et ces deux femmes ont écrit à deux un petit recueil que ensuite Geneviève Bouenneau a repris pour écrire effectivement ce « Femmes d'Argenteuil dans leur intérieur ». Donc finalement, suite aux premières rencontres, toutes les deux, Geneviève et Samira, ont été contactées par d'autres personnes qui ont éprouvé le besoin d'évoquer leur parcours, d'évoquer leur vision de la vie quotidienne à Argenteuil, autour d'une pâtisserie, autour d'un thé à la menthe, comme justement dans le fameux tableau d'Eugène Delacroix, dans son magnifique tableau « Femmes d'Alger dans leur appartement ». Donc de quoi s'agit-il ici ? Eh bien, Geneviève Bouenneau donc nous l'a dit rapidement, mais elle va nous l'expliquer. Même si cela ne saute pas aux yeux, elle vient d'ailleurs et elle reprend la parole à la première personne. Lors de ma naissance à Alger, l'Algérie n'existait pas en tant que nation. Elle n'était qu'un élément parmi des départements français. Alger, Oran, Constantine. Et mon nom italien, il s'agissait d'un héritage de mes grands-parents paternels. Ils venaient d'Ischia, ils étaient venus d'Ischia, pour débarquer un beau matin à Philippeville, aujourd'hui Skikda, une jolie ville côtière située à quelques encablures de là. Donc en fait, dit Geneviève Bouenneau, quand j'ai débarqué à Argenteuil, moi aussi j'étais immigrée. J'avais débarqué dans une ville chantée ou plutôt peinte par de nombreux artistes et en effet, j'arrivais dans un lieu que je ne connaissais pas et même quelquefois, mes élèves ensuite connaissaient mieux que moi, par leur mère, par leur grand-mère, la vieille ville d'Argenteuil. Mais enfin, instant de partage, moment inoubliable, personnalité hors du commun, on finit par se nouer ensemble et donner des récits poignants avec des rires et des larmes et donner l'origine de ce livre. L'atelier d'écriture, l'atelier de lecture, l'atelier d'écriture, les allers-retours ont fini par donner une trame à ce récit qui n'en est pas un, à ce récit qui est en fait un ensemble de portraits et comme souvent nous l'avons déjà vu dans nos lectures, une mosaïque de portraits de ces femmes, du Maghreb souvent, installées à Argenteuil et installées à Argenteuil dans leur intérieur. Donc nous allons, avec un premier portrait que va nous lire Françoise, nous allons au fur et à mesure des pages voir différents portraits de ces différentes femmes. La première, c'est Kadra.
D'un ton grave, Kadra évoque son enfance en Kabylie. Enfance qui, tout de suite, nous entraîne dans la grande histoire, puisque son père a connu la Seconde Guerre mondiale. Comme Ahmed Ben Bella, qui décrochera ses galons d'adjudant pour son attitude héroïque lors de la bataille de Monte Cassino, son père s'engage dans l'armée française. À cette époque, de nombreux Algériens feront de même. Malheureusement, il n'aura pas le destin du premier président de la République algérienne et disparaîtra très tôt. Une fois la guerre terminée, la mère de Kadra ne tarde pas à se remarier et à partir de ce moment, elle se désintéresse de ses enfants. L'adolescente est donc plus ou moins abandonnée au moment où démarre une autre guerre, la guerre d'Algérie, que la France nomme pudiquement les événements. Un jour, des harkis investissent son village. L'un d'eux, originaire des Aurès, demande sa main alors qu'elle n'a que 15 ans. En Kabylie, il est exceptionnel qu'une femme épouse un homme issu d'une autre wilaya, mais elle l'épouse tout de même, presque sans le connaître. Bientôt, les combats font rage dans la région. Kadra découvre alors la guerre dans toute son horreur. En 1963, un an après l'indépendance de l'Algérie, la famille débarque à Maubeuge. Pour eux, tout est alors à reconstruire.
Donc ça, c'est un premier portrait, c'est celui de Kadra, qui n'est ici qu'évoqué. On la retrouvera vraisemblablement un peu plus loin, dans plusieurs autres pages. Et on va découvrir un autre personnage, c'est Mansoura.
Une autre dame vient d'arriver, le sourire aux lèvres. C'est Mansoura. Elle porte un foulard clair et une longue robe marron, et je le regarde sortir un grand plat de crêpes de son kaba. Des crêpes de sa région d'origine, Nedroma près d'Oran. Pendant que Myriam prépare le thé à la menthe, je dispose les crêpes dans de petites assiettes. Elles sont fameuses et n'y séjourneront pas longtemps. Mansoura est veuve. Elle a 7 enfants. 19 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. C'est dire si elle aime les petits. Quand elle égrène leurs prénoms, son sourire est le plus beau des discours. Chez cette dame, aux yeux vifs, on devine un grand désir d'échange, désir de se raconter aussi. Elle est fière d'avoir élevé tant d'enfants. « Mon mari ne buvait pas et il ne fumait pas non plus », précise-t-elle. « Il était fidèle, mais très jaloux », elle ajoute. « Malade de jalousie. Rien ne lui échappait, mais en vérité, il ne s'occupait pas des enfants. C'est moi qui en avais la charge ». Et il eut beau me surveiller en permanence, allant jusqu'à inspecter mes affaires, il n'eut jamais rien à me reprocher. Grâce à elle, les enfants ont tous fondé une famille. De plus, en comptant ses neveux et nièces, elle est l'instigatrice de 10 mariages. Je ne peux m'empêcher de lui lancer en matière de taquinerie. « Mais alors, vous êtes un peu une marieuse ?» Elle acquiesce d'un hochement de tête. « Dans ma famille, nous le sommes toutes, plus ou moins. »« Bien !» Mais s'agit-il de foyers harmonieux ? Sa réponse est oui, sans hésitation. En tendant son verre de thé à Myriam, elle ajoute. Bien sûr, avec parfois de petites disputes, normales dans un couple. Mais au fond, rien de grave. Elle change de ton pour s'adresser à Myriam en arabe, jetant l'oreille. En fait, elle lui reproche de ne pas avoir préparé un vrai thé à la menthe avec de la vraie menthe selon la tradition. Un peu gênée, Myriam s'excuse, elle n'a pas eu le temps. Pas le temps, mais voyons, c'est facile à faire pourtant. Et puis c'est si bon, alors que ce misérable thé en sachet ne mérite pas son nom. Mansoura insiste. Celui-ci ne vaut rien, alors que le vrai thé à la menthe est bénéfique pour le cœur, le foie, la migraine, les rhumatismes, la grippe, la déprime. Elle en apportera elle-même la prochaine fois.
Oui, alors en fait, c'est très drôle de voir ces femmes qui se retrouvent et qui, par exemple, là, cherchent entre elles à faire ressortir la tradition. Et on voit, par exemple, quand on évoque les bienfaits du thé à la menthe, enfin du vrai thé à la menthe, qu'il s'agit pas seulement d'une tradition culinaire, mais d'une vraie tradition de vie quotidienne, de vie sociale, de vie partagée. Et qu'avec précisément la recette du thé à la menthe ou d'autres, eh bien, on va pouvoir échanger des tas de choses. Continuons.
Elle choisit d'évoquer les épisodes les plus douloureux de sa vie, ceux qui lui tiennent particulièrement à cœur. Elle a plus de 80 ans, et comme tous les Algériens de sa génération, elle a été confrontée à la guerre d'Algérie. 15 jours après la naissance de son premier enfant, une harka, c'est-à-dire une compagnie de harkis, investit le douar. La situation est épouvantable. Ils frappent les hommes et cherchent à violer les femmes, contraintes de se barricader au fond de leur maison. En cette terrible époque, un nouveau drame a lieu chaque jour car la violence est extrême. Imaginez un peu les menaces qui planent sur les jeunes filles. La voisine Yamina est très belle. En barrière anti-viol, on la maquille en cendrillon, lui barbouillant le visage de charbon pour la rendre repoussante. Blessée, Le mari de Mansoura est hospitalisé à Tlemcen. Un harki lui a asséné des coups si violents qu'il a des trous dans le crâne. Il est ensuite soigné en France pour une dépression et choisit de s'y fixer. Il sera alors considéré comme déserteur. Mansoura a 3 enfants de 11 mois, 3 ans et 5 ans, lorsqu'elle découvre la France. On est en 1960.
Voilà, c'est là encore une première partie de vie. Il s'agit en effet de la première partie de la vie de Mansoura, puisqu'elle arrive dans les années 60, on pourrait dire en pleine guerre, en effet. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Il va y avoir un petit peu plus loin la suite de ses aventures, on pourrait dire, puisque Mansoura, on l'a vu tout à l'heure, elle est arrivée en France à, je ne sais plus, 15 ou 17 ans. Finalement, c'est toute sa vie qui s'est passée en France et on va avoir la suite de son existence.
Bercée d'art andalou dans sa ville natale, Mansoura vécut la découverte de Saint-Étienne avec ses terrils noirs de charbon et ses chevalements de fer comme un véritable traumatisme.
Ah oui, avant d'arriver à Argenteuil, elle était arrivée à Saint-Étienne. On continue.
Employée au chemin de fer, son mari embauchait très tôt et dans le logement exigu, la cohabitation avec la belle-mère devient vite insupportable. Aussi stupide que méchante, elle s'amusait à manipuler son fils, qui se montra de plus en plus irascible envers sa femme. Un beau jour, poussé par sa mère, il ramasse une chaise qu'il abat sur sa femme. Les blessures sont si sérieuses qu'elles nécessitent une hospitalisation.
Donc en fait, la belle-mère, c'est vrai, est comme l'âme damnée de la famille. Et peu à peu, malgré tout, le mari de Mansoura va se rendre compte que sa femme l'aime et qu'au contraire, sa mère ne cherche que le mal. Donc cherchons la suite, nous.
L'après-midi démarrait à peine, mais le silence régnait dans la maison. Le mari était au travail, les enfants à l'école et la belle-mère faisait la sieste. Mansoura, elle, était à sa place, dans la cuisine. La cuisine dans ce bidonville de Saint-Étienne, c'était ce recoin où, accroupie, elle s'occupait tantôt à éplucher les légumes ou à rincer les assiettes, ou encore à souffler sur les braises du kanoun ou mijoter la chorba. Les mains dans l'eau de vaisselle, Mansoura réfléchissait. Son frère Abdallah était passé la voir avant de prendre son train. Il lui avait soufflé une nouvelle fois. « Pars, ce n'est pas possible !» La veille, en la ramenant chez elle après le séjour à l'hôpital, il lui avait suffi d'un coup d'œil pour saisir l'ambiance de ce foyer. Il n'était pas prêt d'oublier les hurlements de la belle-mère, agitant ses griffes comme pour défigurer sa sœur. Il faut reconnaître que celle-ci avait commis une terrible faute, sinon une erreur fatale. Elle avait mis trop de sucre dans le thé. Suivant les instructions de la reine-mère, Aziz avait fait le geste de la frapper de nouveau, mais Abdallah s'était avancé, un pli mauvais à la bouche. Un pas, puis un autre, et la main de l'autre retomba. « Bon, je m'en vais. » Il était sorti en claquant la porte. Après un coup de torchon circulaire, Mansoura reposa sa dernière assiette. Elle souleva le couvercle de la casserole, trempa une cuillère dans la chorba pour vérifier la cuisson des légumes et versa les pois chiches. Tout allait bien. Elle dispersa les braises encore chaudes et remit le couvercle en place. Les enfants ne manqueraient de rien. Le repas du soir était prêt. Mansoura aussi était prête. 3 secondes plus tard, elle traverse la rue. Un coup de téléphone à la station de taxi et on la conduit à la gare. De là, elle monte dans un train pour Paris, puis un autre pour Houille, où habite son frère. Dans sa main droite, le papier où Abdallah a griffonné son adresse. Un inconnu l'aide à trouver le logement de son frère, un 2 pièces parmi d'autres dans le bidonville. Mais Abdallah fait figure d'homme riche, il est propriétaire. Le lendemain, Mansoura voit débarquer son mari. Il se laisse facilement convaincre par son beau-frère de la rejoindre avec les enfants. Mansoura hoche la tête. À Houille, une nouvelle vie commence pour elle, la vraie vie qui lui laissera de très bons souvenirs. Et la belle-mère, qu'est-elle devenue ? Elle m'annonce avec un petit sourire. La belle-mère reste à Saint-Étienne. C'est très bien pour elle et pour nous.
Oui, donc l'histoire de Mansoura, vous voyez, épisode après épisode, c'est finalement l'histoire d'une libération. C'est ça qui est intéressant dans ce livre de souvenirs ou de rencontres, c'est qu'il y a un petit peu de tout, un petit peu de toutes ces histoires greffées les unes après les autres, différentes, des histoires de soumission, des histoires de libération. Et l'histoire de Mansoura, bah oui, c'est une histoire de libération liée à l'amour finalement, parce que son mari l'aimait, elle, plus que sa mère, bien sûr. Et les méchancetés de la mère ont été, incapables de détacher l'homme et la femme. Voilà, on va écouter maintenant une autre histoire. Tout le monde se tourne vers Assia, qui se contentait, depuis son arrivée, d'écouter. Assia, elle vient de Tiznit, au Maroc, et elle n'a jamais connu la guerre. Sa langue natale, c'est le berbère, pas le kabyle, ni la langue des Chaouades ni des Touaregs, mais le berbère marocain. Mais son mari, et c'est ce qui la rapproche de Mansoura, était aussi miteur à Saint-Étienne. Elle sourit silencieusement. On insiste pour qu'elle en dise plus. Non, elle est timide. Et lorsqu'elle ouvre enfin la bouche, c'est pour une vraie déclaration d'amour. Mais moi, j'aime la France, j'aime beaucoup la France. Et non, j'ai jamais eu de belle-mère et pas question de me plaindre. Je suis heureuse ici, je suis heureuse d'être installée en France. Alors Mansoura, comme Kadra, hoche la tête, bien sûr. Parce que c'est vrai, il y a eu des moments où on était heureuse en France. Et c'est un petit peu le point commun de ces femmes, c'est que même si elles ont des déboires, même si elles ont des aventures négatives, elles se retrouvent ici, femmes algériennes dans leur intérieur d'Argenteuil, femmes marocaines dans leur intérieur d'Argenteuil, un peu comme les femmes d'Alger de Delacroix. Dans une certaine mesure, quand elles se retrouvent dans leur intérieur ou quand elles se retrouvent entre elles dans leur atelier d'écriture, de lecture, d'expression et de thé à la menthe, eh bien finalement, c'est le meilleur d'elles-mêmes qu'elles retrouvent. Il y a encore une petite partie qui nous est donnée par Geneviève Bonneau, qui est une petite partie d'explication avant qu'on ne retrouve un personnage complémentaire. Les populations n'étaient pas toujours fortunées en Kabylie comme dans d'autres régions d'Algérie, hélas. Certaines populations vivaient des moments très difficiles. En particulier dans les campagnes, ça a toujours été très difficile. Par exemple, un jour, mes parents ont été nommés à Makouda, au-dessus de Tixirt. C'était un endroit magnifique, au cœur de collines verdoyantes. La nature s'était plu à y planter de très belles forêts qui, au printemps, s'ornaient de violettes et de cyclamènes pour la plus grande joie des femmes qui allaient faire des bouquets et des enfants qui, eux, allaient bien sûr dans la forêt pour jouer et rapporter aussi des fleurs. Au-dessus de nous, un éperon rocheux en forme de crapaud montait la garde et le dimanche, nous descendions à la plage. Elle était presque déserte et le sable était très doux. C'est là que mon père m'a appris à nager et je voyais défiler sous mon ventre de magnifiques mosaïques bleues et roses, de magnifiques mosaïques de sirènes, de dauphins. J'imaginais tous ces êtres là, en bas, sous mes pieds, s'ébattant en liberté. Mais je me souviens aussi, dans cette campagne, d'enfants maigres, en guenilles, les pieds nus dans la neige quand c'était l'hiver. Oui, je les revois encore, ces écoliers qui, pour tout déjeuner, tiraient de leur poche trouée quelques figues sèches et une poignée d'olives. Et encore, quand je dis ces écoliers, c'était ceux qui avaient la chance de venir à l'école, parce qu'il n'y avait pas de la place pour tous. De même qu'il n'y avait pas de médecin pour tous. Le médecin exerçait en ville et la route jusqu'à Tizi Ouzou était étroite et sinueuse. Ma mère s'improvisa au village infirmière pour aller soigner quelques femmes, quelques enfants. Et encore bien présente à l'époque, la tuberculose nécessitait une injection quotidienne qui était aussi le travail de ma mère. Dans cette école de semi-montagne, l'enseignement était pratiquement réservé aux garçons. Les conditions de vie étaient précaires, ni électricité, ni eau courante. Même ma mère devait aller tirer l'eau du puits Même si ça nous amusait, nous, beaucoup, mon petit frère et moi, pour elle, c'était pas drôle du tout. Et après les cours des garçons, elle se consacrait aux jeunes filles. Certaines étaient autorisées par leur famille à venir apprendre des bribes de lecture, mais finalement, elles venaient à l'école, surtout pour la couture et le tricot. Donc, voilà, c'était la vie dans les montagnes de Kabylie. Et on va, pour faire une petite pause, écouter la musique du Rebab de Tlemcen. Traditionnelle de Tlemcen. Alors, Geneviève Bonneau, qui connaît bien l'Algérie, elle aussi nous parle justement encore à certains moments de son recueil de cette Algérie coloniale de son enfance qui était donc tout sauf un pays merveilleux, même si elle dit le contraire par moments. Je fais une petite citation. Très tôt, grâce à mes parents, je compris ce qu'était l'Algérie coloniale de mon enfance. Un pays merveilleux, oui, un pays merveilleux, mais qui, pour la majeure partie de la population, signifiait exploitation et misère. Difficile d'admettre sereinement la cohabitation de ces deux images. En 1962, avec l'indépendance, presque tous les Français s'en allèrent. et je demeurais la seule française au sein de mon lycée. Des étudiants algériens, plus ou moins compétents, assurèrent nos cours, suivis un peu plus tard de coopérants, français pour la plupart dans l'enseignement secondaire, mais aussi venant d'autres pays. Et donc, par exemple, dans le primaire, se multiplièrent les professeurs qualifiés d'enseignants d'arabe, bien sûr, mais qui venaient de Syrie, d'Irak, d'Égypte, et leur arabe était très différent du nôtre. Ils étaient en réalité cordonniers, boulangers, serveurs, ou tout simplement au chômage dans leur pays. Et puis, la situation devenant trop complexe, ils étaient venus jusqu'en Algérie pour enseigner l'arabe. Et pour nous, la situation aussi devenait trop complexe, justement parce qu'il était difficile de suivre cet enseignement ou d'avoir un enseignement cohérent dans le secondaire. Donc, nous sommes partis et c'est là que j'ai rejoint Argenteuil. Et puis d'autres, derrière moi, plus contraintes peut-être, sont venus s'installer à Argenteuil. Reprenons avec Françoise un autre portrait, c'est celui de Maïssa.
C'est Maïssa, cette dame brune qui entre sur la pointe des pieds. Elle a le teint foncé des gens de Tougourte, dans le sud algérien. Elle aussi porte un foulard, mais à la place d'une robe jusqu'aux pieds, elle a enfilé une tunique mi-longue sur son jean noir. En s'installant, elle laisse échapper un profond soupir. Prétextant la maladie, son mari la soumet à une astreinte permanente et elle a eu du mal à s'échapper. Maïssa est chanteuse et compositrice. Elle interprète ses propres chansons, me dit Myriam. Placée à sa gauche, elle lui pose une question que je n'entends pas et je la vois baisser la tête. Lorsqu'elle la relève, son visage est baigné de larmes. Elle s'éponge discrètement les yeux avant d'expliquer que non, elle n'a pas envie de raconter ce qu'elle vit. Sa détresse nous touche et nous gardons le silence. Une seconde passe, puis elle esquisse enfin un sourire. En découvrant les Françaises, l'homme algérien est ébloui. Il en oublie aussitôt sa femme restée au pays. Et parfois, il prend une nouvelle épouse. C'est seulement quand il est vieux qu'il se souvient d'elle, déclare-t-elle d'un ton mélancolique, avant de préciser, parce qu'il a besoin d'une infirmière. Maïssa aimerait bien étudier. Lire et parler correctement le français, suivre des cours d'informatique. Au bled, il n'y a pas Internet, il faut téléphoner pour se parler. Mais j'ai besoin de voir ma mère, j'utilise Messenger, Facebook, Skype, j'envoie des messages aux amis, c'est vital pour moi. Depuis son arrivée 2 ans plus tôt, elle n'a connu que les ambulances et le trajet du domicile à l'hôpital. Le docteur est venu me parler, il m'a demandé pourquoi je restais ici. Elle se tourne vers moi. En arrivant en France, j'ai découvert la question des papiers. Ici, il faut toujours des papiers. Pourquoi je reste avec lui? Parce que c'est mon mari. Enfin, elle est rassurée maintenant, puisque la voilà en règle. C'est difficile de vivre auprès d'un mari âgé. Comment se comporter? La réponse est simple. Il faut faire semblant de lui obéir et puis agir comme bon nous semble. Un soupir, puis... Tu sais... J'ai beaucoup de choses à dire. Si tu branches un magnétophone, tu pourras écrire un livre rien qu'avec ce que je vais te raconter. Il y a des Français qui sont restés vivre à Biskra après l'indépendance. Une famille où le mari est enterré dans le jardin. Les parents sont restés et la fille aussi. Elle était partie se marier en France et ensuite elle a fait venir son mari. La vie, il faut l'habiller de belles couleurs et se tenir debout. Avec sa jolie formule, Maïssa m'a tirée de ma rêverie. À mon tour, je voudrais vous parler d'un très vieux monsieur, annonce Myriam, la voix nouée par l'émotion. Un homme merveilleux, mon père. 2 mois qu'il est parti, et mon Dieu, qu'il me manque. Elle s'interrompt, joint les mains un instant. Dans la lumière de l'après-midi, son profil de Madone Kabyle est encore plus joli que d'habitude. On la sent émue. Elle laisse filer quelques secondes avant de reprendre. J'ai eu des parents merveilleux. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et je tiens à rendre hommage à ce père formidable. 70 ans de vie commune avec ma mère, pas un nuage. Jamais je ne les ai vus se disputer, jamais de mauvaise humeur. La discorde nous était étrangère. Ils se sont toujours bien entendus, et c'était une vraie chance pour nous, leurs enfants. Tous les regards se portent sur elle lorsqu'elle poursuit. Selon la coutume kabyle, mon père et ma mère étaient cousins. Elle n'avait que 10 ans le jour de leurs noces et mon père vint. Bien sûr, le mariage ne fut pas consommé avant l'heure et longtemps ma mère bénéficia d'un statut de petite fille privilégiée. Elle était heureuse au milieu de sa belle famille. En fait, ses oncles et tantes, cousins et cousines, sa belle famille, ses oncles, ses tantes, cousins et cousines. Dans ce coin superbe, au cœur de belles montagnes habillées d'ormes et de chênes verts, la famille de mon père possédait champs de blé et d'orge, potagers et arbres fruitiers de toutes espèces, grenadiers, figuiers, oliviers, comme il se doit pour une famille kabyle, opulente. Gourmande de fruits, ma mère y trouvait son compte. En réalité, pour la petite fille qu'elle était, travailler au champ signifiait qu'elle s'adonnait à tous les jeux de plein air possibles avec ses cousines. Très jolie, elle était couvée comme une princesse. Un jour, un cousin la surprit en flagrant délit de maraudage, croquant une poire à belles dents. Le jus lui dégoulinait sur le menton, ce qui ne l'empêchait pas d'entasser en même temps les plus beaux fruits au fond de son corsage. Il s'en alla trouver mon futur père. « Dis donc, cousin, avec qui t'es-tu marié ?»« L'air narquois, mon père répondit qu'il était fier d'avoir épousé la plus belle fille du village. « Oui, peut-être, dit l'autre, mais ton épouse est aussi une voleuse de poires, et ça tu ne le savais pas. » Bien des années plus tard, les cousins en riaient encore.
Oui, donc il y a des histoires tristes et il y a des histoires drôles, en effet. Il y a aussi des histoires de fêtes. Les traditions, il y en a qui sont difficiles, qui sont contraignantes, et il y en a aussi qui sont amusantes et épanouissantes. Et par exemple, Mansoura, dont on a vu tout à l'heure qu'elle avait de si mauvais souvenirs, de Saint-Étienne par exemple, Mansoura, elle parle des fêtes. Elle dit « Ah, les fêtes, mais qu'est-ce qu'on a pu en faire ? Le Mouloud, le Ramadan, l'Aïd, mais c'est simple, tout était prétexte à faire la fête. » Même au bidonville, la première dent perdue par un enfant, la première coupe de cheveux, la circoncision des garçons, bien sûr. La veille, chacun apportait sa contribution au festin, la viande, les légumes, la semoule, les pois chiches, le blé, les fèves, les lentilles ou les gâteaux, bien sûr. On se partageait le travail et finalement, on arrivait à avoir tout en abondance. Donc nous étions bien, malgré les soucis du quotidien. Nous avions, oui, l'eau courante à un robinet. Nous avions l'électricité à une prise. Eh oui, c'était tout le confort possible. C'était un bidonville 4 étoiles. Et elle insiste. N'oublions pas le temps des bidonvilles. Finalement, nous avons vécu à ce moment-là une vraie vie communautaire. Algériens, Marocains, Tunisiens, on ne faisait aucune différence. On se mélangeait dans une entente parfaite. Les maris étaient au travail, les enfants à l'école, et nous, les femmes, entre nous, eh bien oui, nous passions des après-midi à rire, à bavarder. Et puis, naturellement, après, il fallait rentrer à la maison avant le retour du mari pour préparer tout ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, Mansoura ne sait pas écrire l'arabe et elle sait très peu de français. Elle a fréquenté la médersa, mais faute de vraie pédagogie, elle n'a rien retenu de l'écrit. Et donc, elle a bien du mal à écrire ou à lire le français. Mais l'école de la vie, finalement, elle la connaît. Et l'école de la vie, l'école de la cité, elle l'a bien comprise. La vie communautaire était riche au sein du bidonville parce qu'on partageait tout. Les émotions, la joie, la tristesse, les ustensiles de la vie quotidienne. Un genre de communisme sympathique qui nous rendait proches les uns des autres. Et puis, en cas de coup dur, la solidarité n'était pas en vain mot. Il en allait de même pour partager les bons moments. Donc oui, mauvaise chose, bon moment, vie quotidienne, fête, rire. Finalement, en même temps que les objets utilitaires, circulaient de maison en maison les petites histoires de chacun et les histoires de notre vie. Dans toutes les sociétés du monde, finalement, les enfants font les liens, les jouets des enfants sont partagés et avec eux, tout le reste. Voilà, encore des souvenirs, encore des personnages. On va redonner la parole à Françoise qui va nous parler de Ada.
La porte s'ouvre sur une jeune femme dont le sourire illumine l'assemblée. Elle s'appelle Ada. Elle porte un pull gris et une veste noire sur son jean. Une fleur de strass est posée sur son bonnet. Tout en déroulant son écharpe de mohair, elle ôte bonnet et foulard pour se présenter. Elle a 33 ans et vient de Tlemcen, où ses talents de poétesse sont reconnus. Son père enseigne l'arabe classique à l'université. Dès sa petite enfance, elle n'a cessé de s'intéresser à elle et de la stimuler. Il n'a cessé de s'intéresser à elle et de la stimuler, pardon. Enfant exceptionnelle, elle a marché à 1 an, parlé avant 2 ans et su lire très tôt. Aussitôt, les questions fusent sur sa ville natale. Elle y répondra volontiers, mais auparavant, elle nous prévient. Sa vie est une romance poétique. Ada a 9 ans. D'habitude, elle revient de l'école avec son amie Souya, mais aujourd'hui, Souya est malade. Ada se retrouve toute seule. Sur la route, le trafic est intense. On est jeudi et les gens se dépêchent de rentrer chez eux. En Algérie, comme dans la plupart des pays arabes, le vendredi est jour de repos. Jeudi est donc la veille de week-end. Depuis quelques minutes, un petit chien la précède sur le bord de la route. Il a le poil beige avec des taches noires et il a l'air gentil. Elle accélère le pas et réussit à le rattraper. Ça y est, elle pose la main sur son poil rêche. Pauvre bête, on dirait qu'il a peur. Il tremble de tous ses membres. Un gros camion arrive à une vitesse folle. Elle cherche à s'interposer. Le choc est terrible. Et puis plus rien. 2 mois de néant. Pour sa famille, les amis, les camarades, son enseignante et surtout ses parents, c'est la désolation. Son père se tient à son chevet. Elle est étendue, blanche et immobile. On dirait qu'elle dort, installée dans le coma. Comme chaque matin, il est venu lui dire bonjour. Ainsi commence sa journée depuis 2 mois. Sur le marché, un jeune homme proposait de petits oiseaux, des chardonnerets, tête rouge et robe noire décorées de jaune, qui chantaient la vie à gorge déployée. Ils étaient si mignons. Il a échangé quelques mots avec le vendeur. Le garçon était parti tôt dans la montagne et là, 2 chardonnerets, un mâle et une femelle, s'étaient pris dans la glu. Plus par sympathie que par véritable désir, il a acheté le couple. En tirant les pièces de sa poche, il s'est demandé ce que penseraient ses élèves s'ils savaient ça, alors qu'il se dit adepte de la nature et de la liberté. Et puis il a haussé les épaules. On verrait bien. À l'entrée de l'établissement, il a caché les chardonnerets sous son manteau et à présent il est là, devant la cage de verre de sa princesse au bois dormant. Un coup d'œil furtif, personne. Il tire la cage de son manteau et aussitôt, les oiseaux se mettent à chanter. Puis il se penche et cogne du doigt contre la paroi. « Bonjour, Maada, c'est papa. Est-ce que tu m'entends ?» Les oiseaux chantent de plus belle et ce matin-là, une onde naît plus puissante que les autres. Elle traverse l'espace, traverse la vitre, traverse le front de Ada et les limbes de son esprit qui sursautent. C'est la voix de papa. Ada soulève ses paupières si lourdes et quand elle ouvre les yeux, elle voit la cage où s'agitent les oiseaux avec au-dessus la main de son père. Un souffle sort sa bouche si faible qu'il se devine à peine. Papa ! Il cogne à la vitre. Oui, Ada, c'est papa. L'émotion est trop forte, son corps est secoué de frissons, mais il trouve la force d'appeler le personnel qui arrive en renfort. « Ma fille est réveillée, venez vite !»
Voilà, Ada s'est réveillée. Donc cette jeune femme si douée, cette jeune femme qui avait l'avenir devant elle et qui a failli voir sa vie fracturée, eh bien oui, elle s'est réveillée. Et ce jour-là, grâce au chardonneret, grâce à son père, elle va avoir la révélation de la suite de sa vie. Elle sort du coma et je ne vous lirai pas la fin de l'histoire parce que c'est un petit peu long. Mais en tout cas, elle émergera en effet de toute cette horreur et elle arrivera à reconstruire sa vie. Elle va, elle, venir en France puisqu'on la rencontre à Argenteuil. Elle va venir en France tout simplement pour être opérée à nouveau. Parce que effectivement son état de santé le demande. Elle vient en France pour se faire opérer, elle y reste, elle rencontre l'âme sœur et elle fonde sa propre famille. Donc la fin de l'histoire, c'est elle qui n'aurait pas dû survivre, ni marcher, ni se marier, ni enfanter. Et bien voilà, ce jour-là, elle fait la connaissance de son fils, Mohamed, qui vient de naître. C'est un vrai miracle. Au-delà du miracle de l'histoire de Ada, on va revenir un petit peu sur l'assemblée des femmes qui se retrouvent donc dans l'atelier de thé, d'écriture et de lecture. Et on va à nouveau parler de ces femmes d'Alger ou de ces femmes du Maroc réunies à Argenteuil. Ce jeudi-là, dit toujours Geneviève Bueno, bien sûr, ce jeudi-là, en me hâtant vers la maison du Val, j'ai trouvé une belle surprise. En fait, la surprise, c'était les quatre de Tiznit. Les quatre de Tiznit, quatre femmes marocaines issues du même village, qui étaient venues, toutes les quatre, rencontrer leurs amies algériennes et marocaines. Foulard et robe jusqu'aux pieds, au fil de la rencontre, elles ne marqueront à aucun moment la différence entre leurs deux communautés. Et au fur et à mesure, malgré l'animosité officielle entre leurs pays, les femmes, bien sûr, ont tourné leur regard vers l'essentiel. La solidarité, l'humanité, la paix, la protection des enfants, le désir d'apprendre, la quête du bonheur. Moi qui avais connu le train Alger-Rabat, à l'époque où le passage de la frontière à Oujda n'était qu'une simple formalité, eh bien oui, ce jour-là, avec les quatre de Tiznit, les quatre marocaines qui sont venues se joindre au groupe des Algériennes, j'ai retrouvé, en effet, cette communauté de l'Algérie et du Maroc qui était si fréquente dans mon enfance. Et puis maintenant, et avant de nous quitter, on va lire le portrait de Dounia.
Dounia est une petite femme au regard perçant derrière des lunettes à monture noire. Sa détermination en impose. Je la sens vibrer de malice lorsqu'elle me lance. Si vous n'arrivez pas à prononcer mon prénom, appelez-moi Brigitte, ça ne me gêne pas. Fadila est plus réservée, Lala plus souriante. Aussitôt, je la surnomme Lala Léopard pour ce foulard tacheté qu'elle orne de lunettes de star. D'un air bienveillant, elle encourage mon arabe assez incertain. Avec sa longue silhouette noire, Ibtissem est impressionnante d'élégance et de dignité. La renommée de l'atelier doit s'étendre, car les nouvelles recrues affluent aujourd'hui. Voici Majida de Biskra, la ville audate. Arrivée en France, après son mariage, elle n'eut désormais plus le droit de quitter son appartement. Son mari travaille à la mairie. C'est un méchant homme. Elle l'a épousé sans le connaître, selon la tradition. Ses enfants s'expriment en français, langue qu'elle ne connaît pas. Ils ne se comprennent pas toujours et cela crée parfois des conflits. Depuis sa place, à l'autre bout de la table, Aïssa acquiesce. C'est dur le français, il ne suffit pas de connaître les lettres. Pour écrire, on doit aussi les accrocher entre elles.
Et puis même pour Dounia, on va évoquer aussi la difficulté de la vie quotidienne.
Il faut commencer les interventions par l'aile gauche de l'Assemblée, annonce Dounia, parce que les histoires sont toujours gauchères. Je comprends alors que nous venons d'intégrer une philosophe et désormais nous adopterons ce système afin de n'oublier personne. Assia est la première à se jeter à l'eau. Pour ses enfants, quatre garçons et deux filles, elle alternera les périodes avec ou sans pilule, mais sans suivre à la lettre les instructions de son mari. Son premier fils naît en 1976 à l'hôpital Victor Dupuy. Et les autres enfants y verront aussi le jour. Oui, ici, à Argenteuil. Ce qui la révolte, c'est d'habiter si près de Paris sans y avoir accès. Une si belle ville, le monde entier nous l'envie et moi je n'ai pas eu le droit de la connaître. Bien sûr, elle trouve génial le partenariat d'Argenteuil avec le musée du Quai Branly et elle compte en profiter au maximum. Ses enfants ont tous fondé une famille, elle peut enfin souffler. Mais je préviens que vous ne rirez pas jusqu'au bout. Il décide un beau jour de venir à Gennevilliers, en France.
Ça, c'est le mari qui dit ça à sa femme.
Là, elle change de ton. C'est bien joli de se transplanter ailleurs, mais lorsque l'on n'a ni famille ni amis sur place et que l'on reste enfermé dans une maison, on devient tout simplement un animal sauvage en cage. Ouvrier spécialisé aux usines Peugeot, son mari lui interdit toute sortie. S'il impose cette réclusion, c'est qu'il craint en permanence pour elle. Les enfants, eux, mènent une vie normale, avec bien sûr des hauts et des bas, et à présent tout va bien. Mais elle n'oubliera jamais ces années où elle n'avait pas le droit de sortir. Venue du Maroc, grand pays où la famille est très étendue, elle est traumatisée d'avoir dû vivre cloîtrée si longtemps. Isolée et sans amis, car le mari, son aîné de 14 ans, empêchait toute relation extérieure. Elle a vécu un enfer. Lorsqu'il rentrait du travail, lui aussi s'enfermait à double tour. Il avait peur de tout, pour lui, pour elle. De la police, du patron, des voisins, des passants, des Français, des Marocains, des Algériens, des mouches et bien sûr des moustiques. Ce pavillon était un tombeau dans lequel trônait le mari, véritable couvercle de plomb. 7 fois de suite, l'assistante sociale se présenta pour proposer à Dounia de suivre une formation et 7 fois, il l'a mis à la porte. « C'est une femme d'intérieur que je veux, une femme à la maison. » Lorsqu'elle voulut passer le permis de conduire, il lui rit au nez. « Tu veux apprendre à conduire une voiture, toi, qui ne sais même pas diriger un âne ? Quelle idiote !»
Oui, donc là encore, vous voyez, c'est une vraie mosaïque, puisqu'il y a le portrait de celles qui sont libres et le portrait de celles qui ne le sont pas. Mais finalement, l'histoire de Dounia se finit bien. Quand elle se redresse, je vois à son œil qui frise qu'elle va nous faire une répartie originale. Et oui, Dounia, c'est une fille fine. Et elle a supporté ce mari qui la traitait d'idiote à longueur de journée. Alors cette fois, finalement, elle nous surprend toutes en nous disant « Moi, la France, c'est mon psychiatre, ça me guérit, c'est une histoire qui me guérit, la France. » Et nous finissons toutes sur un éclat de rire général. Voilà, c'est la fin de notre mosaïque, ou presque. Nous avons rencontré toutes ces femmes dans leur intérieur à Argenteuil, ou plutôt non pas dans leur intérieur, mais dans leur espèce de club de rencontre. Elles y étaient pour se raconter leurs histoires, elles y étaient pour écrire leurs histoires, elles y étaient pour confronter leurs histoires, et elles ont trouvé, au sein de ces rencontres, justement, le soutien dont elles avaient besoin. Alors, on va laisser la conclusion à Dounia. Dounia qui applaudit une de ses camarades et qui lui dit « Bravo, bravo et courage pour la suite. Il faut toujours écouter son cœur. Finalement, c'est ça le secret. À mon époque, nous n'avions pas le droit. Nous n'avions le droit de rien faire. Suivre la loi des patriarches, c'était la seule voie. Mais maintenant, heureusement, tout a commencé à changer. » Alors, vous vous souvenez peut-être du portrait que Faïz Aghen avait fait de sa mère dans le livre « La discrétion » que nous avons lu il y a un mois environ. Eh bien oui, finalement, la discrétion, peut-être que ça va se terminer. Et peut-être que pour des femmes algériennes ou marocaines, à Argenteuil ou ailleurs, il va y avoir une autre façon de voir. Dounia finit en disant encore « Oui, bien sûr, ils sont toujours là, les attardés. » Par exemple, l'oncle de ma voisine, qui était parti en vacances au Maroc, il est revenu tout content. Vous savez pourquoi ? Il a rapporté 2 sœurs, une pour lui, l'autre pour son fils. En fait, il était parti au Maroc, mais il était parti faire son marché. Et là, en effet, l'issue de cette histoire, c'est quand même un grand éclat de rire. Alors, on peut espérer que les 2 filles qu'on était allées acheter au Maroc... Eh bien, une fois rentrées, une fois dans leur maison d'Argenteuil, une fois dans leur rencontre avec leur copine d'Argenteuil, elles vont trouver autre chose dans la vie que, entre guillemets, les méchants maris de certaines de nos personnages que vous avez rencontrés. Donc, on va se quitter pour aujourd'hui. À Argenteuil, à Marseille et ailleurs, on va saluer nos copines algériennes et marocaines de toute la France. Et on va se retrouver bientôt pour d'autres aventures.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.